pas de synthèse, mais éventuellement témoin à partir d'un certain nombre de choses qui m'ont frappé ou particulièrement intéressé ou questionné dans la journée. Alors deux mots quand même d'où je viens, parce que c'est le témoin, il faut quand même qu'il dise d'où il sort. Alors effectivement, moi je suis éducation nationale, enfin j'avais une casquette éducation nationale avant de partir en retraite. Et une casquette. En revanche, je ne suis pas enseignant. Donc à deux points de vue, nul n'est parfait. C'est de ce point de vue-là que je vais parler. Alors comme effectivement j'ai travaillé en matière d'évaluation, et notamment d'évaluation standardisée internationale et nationale, je voudrais dire deux mots quand même en réaction à ce que disait, au ton extrêmement pessimiste qu'on a eu ce matin sur le système éducatif, hein, aussi bien de la part un peu de Michel Lussault que, a fortiori, d'Anne Armand. J'irais volontiers en deux mots, je crois qu'ils ont parfaitement raison. Si j'en crois un petit peu tous les travaux sur la question, on a un système éducatif dont les résultats baissent en moyenne, mais baissent en moyenne surtout parce qu'il y a de plus en plus d'élèves en difficulté et que ces élèves en difficulté ont des performances de moins en moins bonnes. C'est un petit peu la crise des ciseaux et c'est la branche du ciseau du bas qui s'écarte. Et ceci est d'autant plus important à souligner qu'en parallèle, et contrairement à ce que s'imaginent un certain nombre de gens, l'élite, avec beaucoup de guillemets que l'on peut repérer à travers ce type d'évaluation, elle n'augmente pas. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'il faut en laisser un certain nombre sur le bord du chemin pour avoir une élite plus performante et plus nombreuse, c'est totalement faux. Donc ça, c'est mon premier point. Et je crois qu'effectivement, ça oblige à s'interroger assez fortement. Deuxième point qui rejoint un petit peu ce qui était dit au tir ce matin, une des choses qui ressort très clairement d'un certain nombre d'évaluations, je vais citer une anecdote pour aller plus vite, discussion avec un collègue suédois, qu'est-ce que vous pensez du système éducatif français? Vous stressez les élèves. Point, il n'y a plus qu'à retirer l'échelle. Et je crois que c'est quand même une vraie question. Nos élèves se sous-estiment, nos élèves sont perturbés, nos élèves sont dévalorisés. Alors, je ne vais pas vous parler plus avant d'évaluation, juste un mot quand même encore qui est plus de la méthodologie en matière d'évaluation. Je voudrais insister sur le fait qu'on évalue, contrairement à ce que vous dira l'OCDE ou des tas de gens, on n'évalue pas les performances, on n'évalue pas, pardon, les compétences, on évalue des performances et on évalue des performances en situation. Et c'est un petit peu ça ce que je voudrais développer. Donc ça donne des images de performances, mais on n'évalue pas de compétences, mais on n'évalue pas des compétences. Et c'est sur cet aspect de en situation que je voudrais insister. En rebondissant un peu sur quelque chose qu'a dit Michel Lussault ce matin et quelque chose qu'a dit Anne Barrère aussi. Michel Lussault a dit « Le Conseil supérieur des programmes va se placer du point de vue de ce que l'élève sait ». Et c'est ça que nous allons travailler, c'est ce sur quoi nous allons nous adresser à la société. Il a raison. Mais il a dit en même temps « Ce n'est pas notre travail ». Au Conseil supérieur des programmes, de nous occuper des activités qu'il va falloir mettre en œuvre pour ça. Je pense que le gros sujet qui s'ouvre à nous et dont il va falloir débattre et qu'il faut organiser, c'est précisément quelles activités il va falloir mettre en œuvre pour ça. Et c'est un petit peu sur cette idée-là que je voudrais développer. Donc je disais que je rebondissais sur quelque chose qu'avait dit Anne Barrère. Anne Barrère a dit qu'il faut non seulement renouveler les contenus, mais renouveler les exercices. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut s'interroger non seulement sur ce que l'élève doit savoir, devrait savoir, donc des finalités, mais aussi sur par quel type d'activité je vais pouvoir le conduire à ses performances. Et c'est là où je voudrais un petit peu insister. Quand Michel Lussault nous disait l'idée que cette phrase qui lui paraissait problématique et posait question que le socle allait irriguer les parcours de formation et questionner, si je peux dire, ou interpeller tous les acteurs d'un parcours éducatif pris au sens large, hein, au-delà du scolaire, je crois qu'effectivement, il faut s'interroger sur les activités que doivent conduire ces acteurs. Alors, c'est ça que je voudrais développer un petit peu, donc ces activités, ce que font les acteurs, parce qu'il me semble que c'est ce qui a été une grosse partie, finalement, ce qui me frappe des questions qui ont été évoquées dans les discussions qui ont suivi les différents exposés de la journée, sont des questions d'organisation posées par des professionnels. Et je crois que c'est là-dessus, quand même, assez fortement, qu'il faut que se questionne. Alors pourquoi ? D'une part, parce que les parcours, ce sont les activités qui les font. Et finalement, les parcours, ils sont multidimensionnels. Hein. C'est la journée, c'est le temps, c'est la durée de vie de l'élève ou de l'enfant. Plus tard. Et puis un autre élément que je trouve particulièrement important, en écho à une des choses que disait Viviane Buis, les activités, ça laisse des traces. Elle nous a parlé des fiches de la garderie, là, qui plaisaient plus aux parents que je sais pas quoi. Enfin, moi, si j'en juge en tant que grand-père, j'ai eu des enfants qui, en moyenne section, à qui on donnait des carnets d'évaluation. C'était vachement bien. Ils étaient prêts pour la suite. Enfin, je trouve ça absolument effrayant. En revanche, des traces d'activité me paraissent quelque chose d'extrêmement important. Ça se voit. Les parents les voient. Ça donne du sens. Ça peut se discuter. Et c'est ça qui peut se discuter au petit déjeuner, dans le train, enfin, toutes les occasions qu'on peut imaginer. Et tout le monde peut les discuter. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour être capable de discuter de ce qu'on a fait à l'école, de ce qu'on a fait. Et pas simplement à l'école, de ce qu'on a fait dans tout type d'activité. D'où, me semble-t-il, une question, moi, qui m'a aussi beaucoup intéressé au cours de la journée, cette idée, alors très, très pratique, là aussi, de s'intéresser aux emplois du temps. Et quand je dis s'intéresser aux emplois du temps, s'intéresser aux emplois du temps des enfants, pas aux emplois du temps du prof, de l'animateur, etc. Même si, enfin, il ne faut pas non plus se moquer du monde, les animateurs, les profs, ils ont un emploi du temps et ça a de l'importance. Mais la base de l'affaire, ce sur quoi il faut réfléchir de façon les plus évidentes, ce sont les emplois du temps des enfants. Et lorsqu'on organise des activités, c'est-à-dire... Je pense un petit peu à tout ce qu'on a pu avoir à l'instant là, à propos des activités scolaires. Lorsqu'on met en place des dispositifs, il faut effectivement les penser en termes de qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'un emploi du temps de l'enfant, y compris avec des temps où on le laisse un peu tranquille, d'ailleurs. Et je crois que cette question de la suroccupation des enfants, souvent faite à partir de bonne volonté, etc., est une question qu'on peut éventuellement aborder en s'interrogeant sur les emplois du temps des enfants et les emplois du temps de tous les enfants. C'est aussi une occasion de discussion entre acteurs, y compris avec les parents, etc. Et ça peut être une façon extrêmement concrète d'aborder la mise en place de dispositifs, etc., dans des relations entre acteurs, entre opérateurs et entre acteurs, je mets les parents dans les acteurs, qui sont évidemment des relations extrêmement complexes, on l'a souligné à diverses reprises. Je voudrais évoquer juste encore un point qui me semble extrêmement important, cette idée que tous les enfants peuvent réussir, mais ne réussissent pas de la même façon. Et ça, je crois que c'est une question... elle est d'ailleurs, si je me souviens bien... réaffirmer, non pas qu'ils réussissent pas de la même façon, mais que tous les enfants peuvent réussir, ou comme on dit des fois en jargon, tous les enfants sont éducables, ça figure plus ou moins dans la loi de 83, de la dernière loi sur la rénovation de 2013, oui, je date un peu, de 2013. C'est une affaire extrêmement importante, mais ils ne réussissent pas en passant tous par les mêmes voies, d'où l'importance de la question des parcours et d'un travail sur les parcours des enfants, dans toutes les dimensions des parcours, je l'évoquais un instant, mais aussi pour autant qu'on les convainque qu'ils en sont capables, ce qui a été souligné à diverses reprises à travers, là aussi, des activités. Je voudrais juste terminer par un petit mot, d'ailleurs parce que mon temps est terminé, là, sur le fait que la question du temps... À mon avis, elle se concrétise sur un territoire. Je voudrais quand même dire quelques mots sur le territoire, puisqu'on est là, l'Observatoire des politiques locales. Il me semble que, et je reviens au début, si effectivement arrêter ce que doit être le socle de compétences, de connaissances et de culture pour le jeune Français, la jeune Française du début du XXIe siècle est une question nationale, adressé à la société française, enfin ce que nous a bien réexpliqué, enfin, redit Michel Luchot ce matin, il n'en demeure pas moins que la mise en œuvre et l'atteinte de ce socle par tous, elle ne peut être que locale et territoriale. Elle s'organise au plan local et territorial. Et il me semble que de ce point de vue-là, bon, tout ce qu'on a dit sur la mobilisation des ressources, et je n'y reviens pas, est quelque chose d'absolument essentiel. Je voudrais juste terminer aussi parce que les mises en œuvre locales, Ça veut dire que donc c'est au plan local qu'on organise. Et je voudrais terminer juste là-dessus. On parle beaucoup ces jours-ci de laïcité, de citoyenneté et de quelques autres mots en T. Extrêmement, on en fait beaucoup. Je suis interrogatif pour ma part sur un certain nombre d'orientations ou de choses qui se disent à ce sujet-là. Et je voudrais terminer sur le fait que laïcité, citoyenneté et autres T, ça se pratique plus que ça s'enseigne. Et ça, ça se fait sur un territoire. Et il me semble que de ce point de vue-là, la convergence des politiques locales pour le faire est absolument essentielle. Merci.
Merci Jean-Claude sur ce point-là. Moi, j'étais assez frappé et à la fois toujours réjoui d'entendre effectivement l'ambition réaffirmée par le Conseil supérieur des programmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'école de cette manière-là. Ce n'est pas si fréquent. Et une école qui finalement, en tout cas, essaie de se repenser au niveau du Conseil supérieur des programmes comme étant la possibilité de redéfinir un horizon politique, une vision proprement politique et sociale, avec une vision de la personne et du citoyen, et que cela puisse inspirer non seulement les enseignants, mais l'ensemble des éducateurs du système éducatif. Vaste, très vaste ambition, apparemment extrêmement discutée. Proposition du CSP, on verra si c'est retenu. On pourrait mettre là-dessus quelques réserves, mais nous sommes un certain nombre d'acteurs au départ qui avions effectivement, au niveau de l'appel de Bobigny, demandé à ce que, par exemple, l'appel de Bobigny demandait à ce que effectivement la nation se dote d'un horizon commun de l'ensemble des éducateurs. On pourrait que se réjouir effectivement qu'on finisse par y arriver. Et nous avions un peu regretté que la loi de refondation de l'école ne soit pas dans le même temps une grande loi de refondation de tout le système éducatif et de l'éducation. Mais je pense que réellement, il s'est passé quand même quelque chose de nouveau ces dernières années dans le domaine éducatif et que l'extension du domaine du questionnement de l'éducation avec la réforme des rythmes et la mise en place des PEDT est un levier de toute façon sur lequel on ne reviendra pas en arrière. On en discutait à midi et on se disait que finalement, cette question renvoyée à l'ensemble de la nation de savoir effectivement qu'est-ce qu'il est important qu'on mobilise comme énergie, comme argent public, en plus de l'école pour viser un objectif éducatif, a mobilisé tout le monde, parents, collectivités, associations. Alors ça les a plutôt mobilisés dans le conflit, mais j'allais dire ce conflit a bougé un certain nombre de lignes. Et finalement, on se repose maintenant en rebond et par à coup la question des contenus et des finalités. On aurait pu rêver de le faire dans l'autre sens. C'est plutôt la forme canonique du projet. D'abord, les finalités avant la modalité. Mais bon, en l'occurrence, il n'est jamais trop tard pour le faire et pour bien le faire. Et il me semble que la question du socle, elle est potentiellement porteuse de ces dimensions-là. Et je reviendrai sur quelques points que tu as évoqués, Jean-Claude, mais de la possibilité de faire émerger un horizon commun. Alors, sans idéaliser les difficultés que nous allons rencontrer et les points de tension et de contradiction qu'on évoquait, y compris ce matin, si on soulève cette question-là. Réaffirmer que l'on veut effectivement doter l'ensemble d'une génération, d'une culture commune qui les rende à même de se construire en tant que personne citoyen et travailleur, vieil objectif, et de travailler dans des dimensions d'émancipation, de vivre ensemble, de laïcité, de solidarité, est un élément auquel, en tout cas, nous souscrivons. Mais le problème, et peut-être une des craintes, en tout cas, moi, que j'identifie là-dessus, c'est qu'on conçoit cette refondation par les finalités et les contenus, dans le même temps où, finalement, on a un fonctionnement social qui a mis en place, qui a donné un rôle très particulier à l'école. On l'a évoqué. Un fonctionnement social qui, en France, est assez particulier, c'est qu'on a fait porter par la massification scolaire et la scolarisation, la quasi-totalité d'une classe d'âge, on a fait porter à l'école le poids, la légitimation des inégalités. Alors, c'est pas de moi, c'est une analyse notamment sur laquelle revient fréquemment François Dubé, qui disait que finalement, la méritocratie républicaine avait abouti à faire en sorte, avec la massification, à ce que ce soit l'école qui, en distribuant par les systèmes d'orientation et les systèmes de diplôme, qui détermine un petit peu votre destin social. Et vous le savez, et les études sont cruelles là-dessus, que le destin social en France, donc, par rapport à beaucoup d'autres pays, et beaucoup plus que par rapport à d'autres pays, est déterminé par le niveau de scolarité initiale que vous avez. Ça explique, et pour une bonne part, et de manière non négligeable, un rapport extrêmement concurrentiel, une pression accrue, effectivement, sur l'école et sur la compétition autour des diplômes, une angoisse accrue des jeunes et des familles, et j'allais dire ce rapport instrumental et opératoire que peuvent avoir certains jeunes et certaines familles pour optimiser leur parcours scolaire. Voilà. Et du coup, en voie de conséquence, j'allais dire, le savoir devient l'outil d'une bagarre de place, plus qu'un outil qui en soi se veut émancipateur. Et je pense que tout éducateur est toujours pris dans cette contradiction de développer un rapport d'épanouissement, de construction personnelle de savoir, et dans le même temps, finalement, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, et plusieurs intervenants l'ont évoqué, des familles, voire des jeunes eux-mêmes, qui nous demandent de leur permettre au maximum de tirer les meilleurs avantages au niveau de leur parcours scolaire. Et on va avoir une pression à la scolarisation, et on l'a dit avec Viviane Bouys qui descend jusqu'à la maternelle. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on prenne la mesure, peut-être, et d'une réflexion qu'on a à avoir, qu'il faut accepter de travailler sur la totalité du modèle social, effectivement, que ce système-là suppose. Sinon, on se condamnera à ce que finalement cette pression compétitive, elle se repose, y compris si on redéfinit les contenus. Et je pense que peut-être la force de la réflexion du CSP, c'est effectivement de se dire qu'il faut qu'on trouve des ressources et des solutions, y compris dans la question, une approche de la question de l'éducation tout au long de la vie. Deux pistes, l'éducation tout au long de la vie, au-delà du socle commun, desserrer la pression, travailler sur des systèmes de reprise de formation pour que tout ne soit pas scellé après l'arrêt d'une scolarité initiale dont on sait très bien qu'elle se reprend, elle ne se reprend que très difficilement. Réfléchir aussi sur un modèle social par derrière, ce n'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui, mais je pense que néanmoins, ça donne bien à voir que dans un pays, en fonction du modèle de développement social et économique qu'on veut avoir, la question éducative et culturelle est centrale, et pas uniquement pour créer de la richesse, pour créer de la cohésion et créer de l'égalité, et qu'il faut qu'on articule ces dimensions-là. Et je pense que là-dessus, en tout cas, l'entrée sur l'éducation toujours dans la vie, en ce qu'elle constitue une disposition de culture qui permet aux gens de construire des parcours de l'autonomie et plus d'égalité, et sans doute une urgence à l'heure actuelle pour reconquérir un projet politique global. Alors, est-ce qu'on peut le partager? À quelle hauteur on peut le partager? Et qui doit le faire, ce projet-là, pour rester un petit peu raisonnable dans un parcours de plus long terme? Deux choses par rapport à ça, c'est deux invitations peut-être. C'est qu'au niveau des projets de territoire, quand même, on aborde plus précisément, j'allais dire, la question de l'évolution des lignes de partage entre les éducateurs. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais rapidement, je vous ai dit que l'école avait cette place très particulière dans notre système social avec un quasi-monopole de détermination des places, une légitimité liée à l'histoire du service public et de l'idéal républicain. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont légitimes pour partager cette charge et cette ambition avec elle? Et vous savez aussi bien que moi qu'un des débats forts sur le rythme a été de savoir effectivement si l'éducation nationale, effectivement, ne devait pas se défendre, j'allais dire, d'un certain risque de contamination par les territoires, d'un certain risque de territorialisation. Vous voyez très bien, et vous l'avez vu dans les débats avec certains enseignants, vous allez municipaliser l'école. Et puis peut-être ayons une certaine prudence, en tout cas par rapport à ça, prudence peut-être légitime. Et du coup, est-ce que les animateurs sont légitimes pour s'occuper de questions éducatives? Est-ce que les parents sont légitimes et à quelles conditions? Est-ce que les collectivités le sont? Est-ce qu'elles sont aussi garantes que les services publics d'État de la question des égalités, de l'égalité? Toutes ces questions-là ont créé un certain nombre de freins. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, se refixer un objectif commun, finalement, nous amène à re-questionner aussi au moment où l'école se repose la question de sa forme et de son organisation et de ses contenus, de repasser en revue la question de la diversité des acteurs et la manière dont ils peuvent collaborer ensemble autour de cet objectif commun. Je vais aller assez vite là-dessus. Mais en tout cas, on ne peut pas simplement se dire que seul un service public d'État peut garantir les conditions de l'égalité. On n'a pas arrêté de le dire dans toute la journée. Les inégalités, elles sont d'ores et déjà là. Que de toute façon, les interactions et la construction globale des personnes dépendent de tous les espaces éducatifs et sociaux dans lesquels les jeunes se constituent. Donc on a tout intérêt à penser ces questions-là. Que ces questions aient une entrée intéressante se constituent beaucoup autour de la logique des parcours et de l'approche par les compétences transversales, on l'a dit aussi, je pense que c'est un point fort, qui rendent compte du fait que les jeunes se construisent dans différents espaces de socialisation où ils construisent des représentations complexes, qu'il y a une articulation. Anne Barrère nous invitait à penser comment les jeunes s'auto-forment et comment on pourrait éventuellement, on s'est posé la question de savoir comment on pourrait prendre ça en compte dans une éducation plus formelle. Nous nous posons la même question dans l'éducation non formelle. Comment on articule ça autour d'une notion parcours? Mais avec ce souci que cette notion de parcours, cette approche curriculaire, soit finalement, avec l'objectif d'égalité et d'accès à la culture, un point de questionnement croisé des acteurs, où chacun identifie ses savoir-faire et ses spécificités, et n'en reste pas, j'allais dire, des cloisonnements institutionnels, historiques, où c'était plutôt chacun chez soi, avec son mandat institutionnel, et une très forte méconnaissance de ce que faisait l'autre. À mon avis, là-dessus, soyons lucides aussi sur la question de la manière dont on va pouvoir matériellement organiser ce croisement de regards-là. Soyons aussi conscients que la question des inégalités est d'ores et déjà devant nous et que la question du territoire n'est pas fatalement le piège de la question de l'égalité. On est déjà de toute façon en face des questions des inégalités et on sait que la capacité des acteurs à construire des parcours et à croiser leurs regards sur les parcours se réalisera à l'échelle des territoires. Je crois profondément que le projet éducatif à l'échelle des territoires doit être l'espace où se pensent ces articulations, même si on les réfère effectivement à des objectifs nationaux. Que, et on l'a aussi évoqué, le territoire est un lieu de ressources et qu'on a eu des exemples, des habiletés qu'on peut mobiliser pour trouver des ressources là où on pense qu'on n'en a pas ou qu'on en manque et qu'il faut sans doute réfléchir, et c'est d'actualité, à des logiques de péréquation de ressources entre les territoires pour s'assurer effectivement qu'on puisse mettre en œuvre partout des politiques éducatives de qualité. Mais d'autres pistes existent. On a aussi expliqué juste tout à l'heure qu'on pouvait penser la proximité dans le territoire, mais aussi la question de la mobilité. Mobilité des ressources, mobilité des jeunes, peut-être des pistes là-dessus à penser. Très rapidement, et peut-être pour finir, mais je pense que on est au cœur d'un objectif qui était l'objectif historique pour nous d'une éducation qui viserait précisément à l'émancipation, la citoyenneté et la laïcité. Refonder l'école de la République, c'est la même idée. Ça suppose de travailler des logiques de pédagogie et de contenu. L'école nous y invite. Nous y faisons retour et on se rend compte que finalement, la forme classique de l'école évolue. On y retrouve des principes qui nous étaient chers dans le champ de l'éducation populaire. Et d'une certaine manière, il y a sans doute là des lieux de croisement. Et il faudra bien qu'on remette en travail sérieusement la question des lieux où on pourra réellement penser le croisement de ces pratiques et éventuellement une formation commune des éducateurs. Qu'on réfléchisse à est-ce que les ESP, oui ou non, permettront de le faire. Réfléchir aussi à des logiques de place. Je pense qu'il y a effectivement cette singularité qu'il faut qu'on pense un peu plus de la place et des lieux éducatifs. Il y a l'école, il y a la famille, il y a le groupe de pères. Et puis il y a ces lieux intermédiaires, ces tiers intermédiaires, pour l'instant on parle du périscolaire, qui sont des vrais lieux extrêmement importants d'articulation de différents lieux de socialisation. Nous avons défendu avec nos amis de Franca depuis longtemps effectivement l'importance de ce lieu-là, et qui n'est pas qu'un lieu commode de garde pour répondre à un besoin social de garde. Un lieu plein avec une vraie logique pédagogique, Michel nous en a parlé ce matin, et des savoir-faire. Une logique d'acteurs, qu'il faut aussi que nous travaillions. Alors je dirais les acteurs professionnels qui sont en pleine mutation, les enseignants et pas que. La reconnaissance peut-être d'une nouvelle fonction et de nouveaux acteurs qui concourent activement à cette dimension éducative. Et je mettrai pas uniquement les animateurs, on a parlé des acteurs culturels. On a parlé des ATSEM et des mutations importantes que connaissent ces métiers à l'heure actuelle, des difficultés importantes qu'ils connaissent de précarisation, de sous-professionnalisation, et donc en conséquence les moyens de questionnement, les moyens publics qu'on pourrait y mettre et les moyens en termes de formation. N'oublions pas non plus, et c'est une conviction forte pour nous dans l'éducation populaire, les acteurs non professionnels là-dedans. Et je terminerai là-dessus. Les acteurs non professionnels, on parle souvent des parents, qui sont experts de leurs enfants. Je crois que c'est Viviane Bouys qui le disait. Donc, ils ont une forme d'expertise d'usage ou d'expertise sociale qui n'est pas celle de l'expertise du professionnel. Mais qu'est-ce qu'on entend par là et comment on l'articule et comment et est-ce qu'on a intérêt effectivement à penser que les acteurs éducatifs puissent associer, comme on le fait dans des associations, des bénévoles, des bonnes volontés, des parents, des non-professionnels, et à quelles conditions on fait ce travail-là. C'est une question qui est complexe, mais quand même une conviction qui est forte, c'est que finalement, le lien social, le lien culturel, le lien de cohésion, le lien intergénérationnel qu'on crée par ce biais-là, il est décisif par rapport à l'objectif de constitution du commun et du vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez identifié, repéré en tout cas l'idée qu'évoquait François Hollande de la mobilisation de la réserve citoyenne. On en rediscutera peut-être. L'idée généreuse de dire que n'importe quelle bonne volonté bienvenue pour se mobiliser, pour à l'école faire des interventions. On voit en tout cas personnellement, au niveau de mon mouvement, on voit les relatives limites que pourrait avoir ce principe-là si on en reste à la généreuse déclaration de bonne volonté. ça s'organise. Ces médiations, ces contacts-là, à mon avis, s'accompagnent, se pensent. Nous avons des savoir-faire dans le domaine, sur le travail de la mobilisation d'acteurs et de bonne volonté. Certaines collectivités, certaines associations ont expérimenté l'accueil de bonne volonté de citoyens qui se mobilisent autour des nouveaux temps périscolaires pour proposer un certain nombre de savoir-faire, une approche culturelle du territoire. Mais on sait aussi que tout cela s'accompagne. Je pense qu'il y a là-dessus, sur cette question de l'engagement citoyen, de la démocratie implicative dans l'acte éducatif, par rapport à la dimension culturelle et de cohésion sociale, sans doute une piste aussi intéressante pour nous à travailler. Projet de territoire, donc, dis-je. Mais peut-être sortons juste, et c'est le dernier petit clin d'œil pour finir, c'est le dernier intervenant qui évoquait le mépris de la question du socio-culturel. Le socio-cu. Qui était une tentative, il y a 40 ans, de mélanger la dimension sociale, de cohésion sociale, et la dimension culturelle. J'ai l'impression qu'on redécouvre les bénéfices du socio-culturel. Ça revient. Et c'est peut-être un des bénéfices paradoxaux de cette période, mais avec des gros risques de dérive sur les questions de laïcité et de citoyenneté. Je suis d'accord avec toi. Il ne faudrait pas qu'on en revienne à une vision impositive et rigide à cette occasion-là, et juste qu'on prenne la mesure qu'on est en train, effectivement, de faire éclater la logique du commun, que l'école, effectivement, est refusée par toute une partie de la population à l'heure actuelle. En tout cas, n'est plus l'espace qui leur permet de se construire. Et ils vont aller chercher des modalités identificatoires de socialisation ailleurs, et parfois dans les formes les plus radicales. Donc, sans doute, il y a peut-être cet électrochoc-là qui va nous aider peut-être à nous remettre en réflexion.
Merci Arnaud. Bon, on va clôturer la journée ici. Enfin, moi, je ne vais pas repartir sur du contenu. Vraiment, je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici et les intervenants, nos grands témoins, les intervenants. Je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai hâte de... On a tout filmé, les séances, de réécouter, parce qu'il y a beaucoup... On vous donne rendez-vous le 10 juin, deuxième grande journée de l'Observatoire de l'année, avec un pré-programme pour l'instant sur le document que vous aviez, mais qu'on est en train de développer aussi, autour des PEDT, là, pour le coup... Bon, dont on va questionner le fonctionnement, encore les contenus, les questions associées, avec un système de plénière comme aujourd'hui et d'ateliers en parallèle plus fourni, donc plus approfondi. Voilà, ça se passera ici aussi, je crois, à l'amphithéâtre Descartes. On va éviter la dualité cartésienne pour autant, mais on sera là donc le 10 juin, et je vous donne rendez-vous pour cette séance-là. Je ne sais pas si... On ne sera pas Descartes, on sera Mérieux. Amphithéâtre Mérieux.